Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Territoria. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du MAG de l'aménagement, du logement et de la nature pour un nouveau numéro consacré à la plateforme SIAP comme système d'information des aides à la pierre, la plateforme incontournable du logement abordable du ministère de la Ville et du Logement. Après 3 ans d'activité, le SIAP se positionne aujourd'hui comme la plateforme incontournable du logement abordable. Retour justement sur ses premières années et cap évidemment sur les ambitions pour 2026. Et pour nous en parler, je suis accompagné de plusieurs personnes sur ce plateau et puis en distanciel également. Stéphane Flau, bonjour.
Bonjour.
Stéphane, vous êtes adjoint au sous-directeur des politiques de l'habitat et directeur du programme SIAP au sein de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages pour le compte du ministère de la Ville et du Logement, accompagné de vos collègues que je m'empresse de présenter. Christine Bordier, bonjour.
Bonjour.
Christine, vous êtes chef du bureau des systèmes d'information Habitat Construction et directrice adjointe du programme SIAP. Loris Jacob, bonjour.
Bonjour.
Loris, dont c'est la première sur un plateau.
Et merci pour l'invitation.
Bienvenue. Adjoint à la chef du bureau des systèmes d'information Habitat Construction et coordinateur de la plateforme SIAP. Et puis à distance également avec nous, Chloé Polycarpe, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Chloé, vous êtes responsable de gestion, service projet et financement de l'habitat social, direction habitat logement, communauté d'agglomération, Sophia Antipolis. Merci d'être également présente. Et puis, comme sur chaque épisode évidemment, ravi d'accueillir Hélène Parmentier. Salut Hélène.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes chargée, je le rappelle, de mission mobilisation des territoires à la direction de l'aménagement du logement et de la nature pour le ministère. Et tout à l'heure, vous ferez le relais des questions que peuvent bien se poser les auditeurs, puisque vous êtes invités évidemment à réagir sur le chat de l'émission, n'hésitez pas, on y répondra tout à l'heure en fin d'émission. La première question, elle est pour Stéphane justement. Le SIAP existe désormais depuis bientôt 3 ans, il a bien évolué d'ailleurs depuis. Qu'est-ce que permet de faire concrètement aujourd'hui cette plateforme, Stéphane ?
Le SIAP, c'est donc le système d'information des aides à la pierre, et c'est la plateforme numérique qui permet de suivre le logement social et bientôt le logement abordable en France. Mmh. 2 propositions de valeur, finalement. Suivre le cycle de vie du logement social, parce qu'un logement social, ça prend du temps. Ça fédère de nombreux interlocuteurs. Il faut avoir l'idée du logement social, il faut négocier ce logement social avec le territoire, il faut ensuite obtenir des aides, il faut ensuite le construire, le livrer et ensuite le peupler avec par exemple la mise au point de la convention APL. Donc c'est toute une chaîne de valeur avec de multiples acteurs, et le but du SIAP, il est double, c'est suivre le logement social dans toutes ses étapes, depuis l'idée jusqu'à sa livraison et jusqu'à sa démolition in fine. Et deuxièmement, fédérer les acteurs que sont l'État, les collectivités locales et les bailleurs qui construisent le logement, qui produisent le logement social en France. Et depuis 3 ans, nous avons désormais un produit qui est stable, qui est éprouvé, même s'il s'améliore. Par exemple, l'an passé, le SIAP a permis de délivrer près de 500 millions d'euros d'aide, a permis d'agréer près de 103 000 logements sociaux en métropole, plus de 3 300 en outre-mer. C'est près de 30 000 conventions APL qui ont été délivrées pour les Français et les Françaises. Donc c'est un produit qui est utile pour toute la chaîne de production du logement social et qui produit des résultats.
Et c'est un guichet unique.
C'est un guichet unique, en tout cas c'est son ambition. C'est-à-dire que lorsqu'on a une question sur le logement social et qu'on fait partie de cette chaîne de valeur, on dépose des dossiers ou on dépose le résultat d'une instruction. Et donc en déposant ça, c'est à la fois un outil qui permet d'opérer, de travailler, mais qui permet aussi de récolter de la donnée et de la mettre en valeur pour que tout le monde voit où en est le logement.
Alors, le territoire est au cœur du dispositif. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, le SIAP, au territoire concerné ?
Effectivement, le logement, c'est une dimension essentielle de l'aménagement du territoire. Et donc, le SIAP, qui est un produit numérique, ne serait pas pertinent s'il n'était pas connecté à cette réalité, c'est-à-dire que ce sont les territoires qui produisent le logement. Et donc, pour être pertinent, il faut qu'il s'adresse à ceux qui produisent, et ce sont les territoires. Je vais prendre 2 exemples. Les délégataires des aides à la pierre. Il faut savoir en fait que près de la moitié, 55% je pense, du logement social est produit en France par des collectivités qui ont passé une convention avec l'État. Ces collectivités, et c'est très bien, peuvent ajuster en fait leurs propres aides à la politique qu'ils déclinent. Et donc, l'enjeu pour le SIAP, c'est d'être au rendez-vous de cette spécificité, c'est-à-dire d'être suffisamment paramétrable, souple, pour être différenciant au niveau d'un territoire. Et donc, c'est ça que l'on essaye de faire, parce que en étant adapté à chaque territoire, le SIAP offre à ces territoires une vision de où en est la production du logement social, une vision claire de leur relation avec les bailleurs sociaux qui déposent des dossiers, qui construisent le logement social et qui le peuplent. C'est un guichet unique aussi pour les bailleurs, vous l'avez très bien dit, parce que les collectivités ont cette spécificité, cette possibilité d'avoir leurs propres aides en appui de celles de l'État qu'elles gèrent pour l'État. Et donc, un bailleur dépose un seul dossier, par exemple, pour recueillir plusieurs aides. Et le dernier avantage, c'est surtout, et c'est très important dans une société qui est digitale, un accès à des données consolidées, de valeur, éprouvées, et donc tout le monde peut voir la production de logements sur un territoire. Et donc cet accès à la donnée, ça peut paraître assez simple, en réalité c'est très compliqué quand la chaîne de valeur est éclatée entre plusieurs producteurs. Et donc le fait d'avoir cette plateforme pour un territoire et d'y adhérer, c'est aussi un lieu de synthèse, un lieu commun. Et le deuxième exemple, je serai plus court, c'est celui des Outre-mer. Les Outre-mer ont des spécificités et donc le SIAP développe des modules pour que les aides en Outre-mer soient complètement ajustées aux réalités de ces territoires pour aider la production, pour fluidifier en fait le processus d'élaboration de la chaîne de logement.
Donc en clair, le SIAP aide les territoires à comprendre, planifier et agir. Christine, comment est-ce que vous travaillez, vous, avec les utilisateurs pour construire justement et améliorer la plateforme SIAP ?
On a vraiment souhaité ce service numérique comme un service qui n'était pas conçu par le haut, mais bien qui associait les utilisateurs et en particulier les collectivités territoriales pour concevoir ce service numérique. On associe ces utilisateurs au sein d'ateliers pour qu'ils expriment leurs besoins par rapport à leur quotidien d'instruction des aides à la pierre au sein des collectivités. On les associe également pour tester les fonctionnalités qui sont conçues. Et puis, évidemment, pour nos utilisateurs, on met en place une assistance pour répondre à leurs questions et débugger au mieux les problèmes qu'ils rencontrent sur la plateforme.
Avec, par exemple, la mise en place aussi d'un espace de dialogue, j'ai vu, entre instructeurs et bailleurs.
Oui, tout à fait. Les utilisateurs peuvent nous faire part des évolutions qu'ils souhaitent. Effectivement, la mise en place d'une messagerie intégrée à la plateforme était une réponse à une de leurs demandes.
Et l'idée, j'imagine, c'est d'approfondir tout le temps ce travail de co-construction.
Oui. On est en train de mettre en place une communauté des utilisateurs pour bien les associer dans toutes les étapes de la construction du service numérique et pour que ça soit plus concret pour eux dans leur utilisation.
Allez Chloé Polycarpe, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes responsable de gestion, service projet financement de l'habitat social à la direction Habitat Logement, communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Chloé, vous avez eu l'occasion justement, vous, de co-construire le produit délégation avec le ministère. Comment est-ce que vous avez finalement été intégré aux équipes du projet et c'était quoi pour vous, très clairement, très concrètement aussi, les enjeux ?
Oui, effectivement, moi ce que je retiens avant tout, c'est vraiment la qualité de co-construction menée entre l'équipe projet du ministère et notre communauté engagée de délégataires et de bailleurs volontaires. Vraiment, en tant que délégataires pilotes, nous avons été associés dès le lancement du module, pleinement intégrés aux réflexions et placés au cœur des échanges. L'équipe, elle a vraiment su faire preuve d'une réelle capacité d'écoute. Elle a considéré nos attentes, nos retours d'expérience. Cette démarche, elle a vraiment permis d'instaurer un dialogue constructif, une coordination efficace. Dans les faits, comme le disait Madame Bordier, nous participons chaque mois à des ateliers de recueil de besoins, ainsi qu'aux présentations des nouvelles fonctionnalités développées. Cela contribue à faire évoluer le produit délégation au plus près des usages et des attentes du terrain. Le principal enjeu consiste vraiment à concilier les exigences réglementaires du ministère avec les besoins opérationnels des parties prenantes, qui permettent donc aux délégataires de configurer leur dispositif d'aide locale et d'instruire les opérations mixtes, tout en facilitant le dépôt des demandes d'aide locale par les bailleurs. Mmh. L'objectif, c'est vraiment de proposer une plateforme unique et un outil intuitif, à la fois simple, performant et adapté aux besoins de chaque utilisateur. Le module délégataire, pour moi, il illustre parfaitement ce qu'une démarche de co-construction active peut produire lorsqu'elle est inscrite dans un véritable esprit de partenariat. D'ailleurs, je tiens à saluer l'engagement de l'équipe qui a vraiment su faire preuve de dynamisme et de réactivité tout au long de la conception du module. Cela a contribué à faire évoluer l'outil d'une manière vraiment pertinente. Et donc, je suis convaincue vraiment que cette approche collaborative et fédératrice, elle constitue un véritable levier de réussite. Et je sollicite les délégataires et l'ensemble des acteurs concernés à rejoindre notre communauté pour exploiter pleinement les fonctionnalités du module et participer activement à son amélioration continue.
Et ben voilà, l'invitation, elle est lancée. Il faut qu'elle soit entendue maintenant, Christine.
Rejoignez-nous.
Christine, les données sur les aides locales des délégataires seront bientôt disponibles sur InfoSIAP, qui met justement à disposition des utilisateurs les données de la plateforme SIAP et de l'ANRU. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur le chat, hein, vous pouvez retrouver évidemment toutes les infos qui vont bien. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est InfoSIAP justement et quels sont les grands enjeux derrière, Christine?
Oui, InfoSIAP au sein de la plateforme SIAP, c'est notre outil de data visualisation et d'exposition des données pour que les utilisateurs puissent s'en saisir. Et comme le disait Stéphane, centraliser les données, c'est une fonction essentielle d'InfoSIAP. Mmh. Et on expose petit à petit les données de tous les services que l'on ajoute au SIAP. On a d'abord commencé à mettre à disposition les données du financement, donc les données des aides à la pierre et des financements des opérations. Et effectivement, vont bientôt arriver les données des aides locales conçues par les délégataires, tel que l'exposait Madame Polycarpe. Mmh. Notre enjeu, c'est bien de continuer à intégrer l'ensemble des données, bientôt les données aussi des conventionnements pour les aides personnalisées au logement, et puis l'ensemble des données des futures aides ou des futurs dispositifs concernant le logement abordable que l'on mettra en place sur la plateforme.
Vous avez ouvert aussi aux bailleurs en 2025 InfoSIAP?
Oui, effectivement, on a fait une ouverture progressive, d'abord aux services instructeurs, puis aux bailleurs, ce qui permet effectivement de partager la même information pour tous les acteurs de la plateforme, bailleurs, services de l'État et collectivités.
Alors, ce qu'on voit effectivement, c'est que la plateforme, elle continue d'évoluer, c'est ça qui est bien. Loris, elle est en constante évolution, cette plateforme. Comment est-ce que vous prenez justement en compte les besoins pour la faire évoluer?
Alors oui, complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que même si donc, le SIAP est une plateforme numérique, elle s'inscrit malgré tout dans un monde qui, lui, n'est pas numérique. Et donc, il y a à la fois, comme l'a dit Stéphane, les acteurs de terrain et donc les territoires qui, eux, produisent des logements. Et il y a aussi donc, un monde réglementaire voilà, qui existe autour justement de cette politique. Et donc le SIAP, en tout cas, a une philosophie qui est extrêmement importante, c'est de centrer justement l'ensemble de l'évolution de la plateforme autour des utilisateurs et également sur un deuxième axe des évolutions réglementaires. Il y a aussi par exemple certains besoins, et c'est ce qu'a expliqué Stéphane, spécifiques par exemple au territoire d'outre-mer, donc qui sont pris en compte. Je vais vous donner exemple, des exemples. Oui. On a donc récemment un nouveau dispositif qui s'appelle Aide Seconde Vie Outre-mer, donc qui a donc été développé en collaboration également avec la Direction Générale des Outre-mer, voilà, pour lequel nous avons, et ça a été également exprimé par Christine, invité directement les utilisateurs à venir participer, à co-construire cette nouvelle aide et ce nouveau dispositif. Par exemple, voilà, les utilisateurs pouvaient venir à des points mensuels pour suivre l'avancement des travaux, mais également aussi proposer des idées, et ça on y tient vraiment, puisque parfois les utilisateurs ont même de meilleures idées que nous, oui. Donc on y tient vraiment.
Ouais, hyper concret, très participatif du
exactement,
coup.
Exactement, ouais. Très participatif, et je lance aussi voilà, l'appel qui a été dit par Chloé en distance, mais voilà, chaque utilisateur est vraiment invité, s'il le souhaite, à participer à ces évolutions. On a également aussi une autre logique, et ça a également été dit, c'est de rationaliser les outils. Il n'y a rien de pire aujourd'hui dans un monde qui aujourd'hui est de plus en plus numérique, d'avoir des outils qui se dispersent, et voilà, ça peut créer des confusions, et par exemple, dans cette logique, le SIAP a, on va dire, internalisé une enquête qui s'appelle l'enquête livraison, qui était menée par la direction de notre ministère depuis 2021, justement sur la livraison des logements agréés. Et donc aujourd'hui, cette enquête qui était jusque-là externalisée a été intégrée au sein de la plateforme, et elle permet justement directement, et dans cette logique aussi de bout en bout, d'analyser les taux de chute des agréments, c'est-à-dire la proportion des opérations qui ont été non abouties, mesurer les dates réelles de travaux, etc., etc. Et donc ça vient véritablement simplifier toute la chaîne, à la fois pour les bailleurs, mais également pour les services de l'État. Et dernier exemple, on a également aussi une logique que le SIAP soit un vecteur de simplification aussi de la réglementation et que le numérique agisse en ce sens. Je prendrai un exemple, par exemple, l'ajout des conventions mixtes et de la publicité foncière au sein justement du produit conventionnement ex-Apilos, pour ceux voilà, qui connaissent, où aujourd'hui il est possible, donc, au sein de la plateforme, de regrouper plusieurs conventions simples dans une convention unique, dite mixte, voilà, qui permet aussi de simplifier et d'alléger toutes les procédures.
C'est parfait, Stéphane. Le SIAP s'inscrit désormais dans l'ambition d'être la plateforme du logement abordable et plus seulement la plateforme du logement social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette évolution ?
Oui, c'est une évolution parce que nous ne l'avions pas pensé comme tel initialement. Mm-hmm. Et quand on dit qu'on s'adapte, qu'on écoute, en fait, s'occuper du logement abordable, c'est venu à l'écoute des territoires, c'est venu à l'écoute d'autres services que le nôtre. Pourquoi ? Parce que la réalité d'une politique de l'habitat, c'est qu'elle s'occupe certes du logement social, mais elle s'occupe en réalité du parcours résidentiel. Et on ne vit pas toute sa vie dans le logement social. On peut en sortir sans aller tout de suite dans le parc privé libre avec un espace tampon qui s'appelle le logement abordable, le logement locatif intermédiaire, qui permet, notamment dans les zones tendues, d'accéder à des logements avec des loyers encore maîtrisés, 10 à 15% en dessous du marché. Donc, ce qui permet de libérer des places dans le logement social et de faire un premier pas dans le monde du parc privé.
Transition en douceur.
Une transition en douceur, c'est exactement ça. Et donc, ça fait partie d'une politique de l'habitat. Et donc, ça reste encadré, même si les procédures sont beaucoup plus simples. Et donc, l'idée, c'est justement de piloter, de suivre cette production de logements abordables pour, là encore, donner à voir la réalité de ce qui se produit sur un territoire en rendant service à ceux qui font le logement abordable. Parce qu'il y a des offices fonciers solidaires qui doivent remplir un certain nombre de dossiers, solliciter un certain nombre de financements. Et donc, l'idée, c'est ils produisent grâce au SIAP ce qu'ils ont à faire, et le SIAP recueille de la donnée qu'il est capable d'exposer par InfoSIAP à l'ensemble des parties prenantes du SIAP. Donc cette idée du logement abordable, ça rentre complètement dans l'idée de donner une vision éclairée de la production du logement social dans une logique que je répète partenariale et contributive.
On est quand même dans un contexte budgétaire qui est, on va le dire, contraint malgré tout. C'est quoi, en dépit de ça, finalement, les ambitions pour le SIAP ?
Oui. Bon, c'est un scoop pour personne hein, que les budgets sont serrés, voire resserrés. Cela étant, pour tous nos partenaires, la priorité sur le SIAP est demeurée très forte. Hein. On reste un des budgets les plus importants du ministère en termes de développement. Et en fait, ça nous oblige, en fait, hein, cette confiance du ministère. Ça nous oblige à être encore plus exigeants avec nous-mêmes sur la rentabilité de l'euro investi. Et donc, il faut revenir impérativement à nos valeurs. Nos valeurs, c'est l'amélioration continue de la plateforme, c'est la simplification des démarches, c'est l'intégration des nouveaux segments, on vient d'en parler, le bail réel solidaire, par exemple, qui permet de gérer l'accession sociale, et donc de rester toujours plus proche du terrain. Et puis pour moi, qui suis sur le projet depuis quelques années, je reste toujours fidèle à la promesse qu'on a faite à nos tout premiers utilisateurs et qu'on s'est faite aussi à nous-mêmes, hein, quelque part. C'est-à-dire que le SIAP doit favoriser le dites-le-nous une fois, je me mets à la place d'un bailleur social qui doit renseigner X formulaires dans lesquels il donne X fois les mêmes données. Mmh. L'intérêt du SIAP, c'est une fois que vous les avez données, eh bien, vous les retrouvez aux étapes qui suivent. Et donc, vous pouvez les consolider, donc nous avons de la donnée de plus en plus fiable, mais vous n'avez pas besoin de le faire, pas besoin de ressaisir. Donc, ce dites-le-nous une fois pour les bailleurs sociaux, on doit encore le développer. Et puis, Loris l'a évoqué, pour moi, l'ambition également du programme, s'il n'y a pas simplement de son produit numérique, c'est de simplifier. Et simplifier, c'est compliqué. C'est très compliqué de simplifier. Et il y a deux choses que l'on peut faire. Interroger les processus métiers en disant finalement parle à ton voisin parce que j'ai l'impression qu'il y a deux fois à peu près le même formulaire. Et donc avant de le numériser, peut-être on peut en faire qu'un seul et donc simplifier la vie de ceux qui opèrent pour qu'ils fassent d'autres choses. Et puis le deuxième exigence en termes de simplification, c'est que notre outil, il doit être simple. Il doit être simple à utiliser. On n'a pas besoin d'aide. Terme, oui. Voilà les deux ambitions que je continue à porter à la tête de ce programme pour les années à venir.
Et puis pour le rendre de plus en plus accessible, évidemment.
C'est ça.
Un grand merci à toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Alors, ce n'est pas encore complètement terminé, vous le savez. On arrive au terme de cette émission. Et là, Hélène, je me tourne vers vous pour savoir si effectivement les questions des auditeurs sont nombreuses ou pas.
Mais oui, Jean-Baptiste. Allez, je me lance, je pose la première.
On y va.
Donc, au-delà des leviers présentés par nos invités, est-ce que, par exemple, les délais de réalisation sont plus courts grâce au SIAP ou est-ce que vous avez d'autres facteurs de réussite mesurables à nous partager ?
Alors, qui veut répondre ?
Qui veut répondre,
oui. Alors, moi, si vous... Je peux peut-être intervenir sur le fait que
Allez-y, Chloé.
Oui, justement, nous, ce qu'on apprécie, c'est vraiment le fait que les bailleurs, en fait, ne nous adressent plus finalement de mails et passent par le SIAP. Donc, finalement, comme on disait, la donnée, en fait, elle est inscrite et elle nous permet d'être exploitée lorsqu'elle est déposée côté État. Mmh. On la récupère côté aide locale. Donc, oui, c'est un gain de temps et là-dessus, on s'y retrouve.
Christine, vous vouliez développer ?
Les délais aussi sont raccourcis grâce à la fiabilité du circuit mis en place, en fait. On n'a pas besoin d'aller chercher une donnée comme on a dites-le-nous une fois. Donc, on simplifie le parcours pour tous les acteurs qui sont interconnectés et on évite d'avoir à attendre l'action de l'autre pour continuer l'opération.
Oui, Stéphane.
Et d'autres types de gains de temps. Là, on a parlé des gains de temps de production ou de dialogue entre les différents acteurs. Il y a aussi également, en passant par le SIAP, un gain de temps dans la mise à jour, puisque venant du ministère, produisant la norme, eh bien, nous mettons en anticipation le SIAP en tension pour qu'il s'ajuste. Lorsqu'on est extérieur, il faut attendre que les décrets soient publiés. Et voilà, donc il y a un gain de temps et une mutualisation de l'effort d'ajustement également. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, même s'ils sont un peu moins mesurables, l'intérêt d'avoir accès à de la donnée à un seul endroit. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit par exemple à son programme local de l'habitat et qu'on est une collectivité, on sait que dans le SIAP, on aura une grande partie des données qui servent au diagnostic, qui sont directement accessibles et qui en plus sont fiables parce qu'elles ont été fiabilisées à toutes les étapes. Mmh. Donc voilà, c'est aussi ça. Il y a aussi des gains de temps pour, on va dire, l'économie, hein, parce qu'un bureau d'études qui n'a pas besoin de chercher dans X administrations les données. Gagne du temps et donc fait économiser de l'argent.
Évidemment, in fine. Une deuxième question, Hélène.
Oui, on a un auditeur qui nous demande si le SIAP est bien couvert par l'ensemble des territoires.
Ah, qui veut répondre là aussi ?
Ah oui, moi
oui,
je
vais.
Vas-y, Loris. Compléter.
Oui. Allez, Stéphane,
Oui, alors, bien sûr. Alors, d'une part, le SIAP est accessible à qui le veut. Hein, c'est une plateforme de l'État qui est accessible en demandant une habilitation de façon très, très simple. Donc, il est utilisé par 100% des territoires en France, France métropolitaine et ultramarine. Il est obligatoire, bien sûr, pour les services de l'État. Il est dans la réglementation obligatoire pour les délégataires des aides à la pierre, qui peuvent l'utiliser de deux façons. Soit utiliser le module du SIAP et le module délégataire, s'ils le souhaitent, pour leurs aides locales. Voilà, ça c'est ce que dit la loi. Elle permet pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure d'avoir leur propre outil la loi impose que cet outil soit interconnecté au SIAP. Dit autrement, si vous souhaitez avoir votre propre outil, ce que vous devez faire, c'est un, respecter la notion de guichet unique. Le bailleur, lui, se fiche de savoir qu'il y ait un instructeur, état ou délégataire. Il dépose son dossier et dans ce cas-là, le système tiers vient récupérer le dossier. Il est instruit dans ce système tiers et le résultat de l'instruction vient dans le SIAP. Et du coup, les données sont mises à jour et sont disponibles. Donc deux façons de se connecter au SIAP, l'utiliser ou s'interconnecter.
Loris, vous vouliez compléter ?
Non, c'était exactement ça. Et c'était aussi de dire qu'en effet, on met en place des dispositifs pour justement faciliter ce travail-là. Si, en fait, chacun peut complètement venir s'interfacer avec notre outil. Et c'est aussi des choses qui ont déjà été faites avec des acteurs.
Voilà.
Ok, voilà pour une...
Et juste un petit complément pour tous les délégataires qui voudraient rejoindre. Il y en a déjà près d'une trentaine sur la centaine qui utilise le module d'aide locale. Il y a un parcours de formation. Hein. C'est-à-dire que le SIAP, le programme, et ça a toujours été pensé comme tel, c'est pas simplement un produit numérique. C'est un produit qui essaye d'intégrer l'humain, donc c'est-à-dire qui intègre la formation. Là, je pense et je l'espère démontrer l'écoute, mais il y a bien toujours un programme de formation, d'accompagnement, pour se servir du SIAP avec une assistance qui est sollicitée, certes, mais qui est très efficace également.
Une troisième question, Hélène.
Oui, question autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que le SIAP utilise déjà l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est prévu dans les prochains développements ?
C'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est ça. Vrai. C'est vrai que c'est très bien d'avoir posé cette question. Parce que...
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, on y pense, on y réfléchit, mais pour l'instant, le SIAP n'utilise pas l'intelligence artificielle et quand nous le ferons, ça sera en toute transparence. C'est notre devoir de plateforme, c'est notre responsabilité, on va dire, d'administration publique, d'être tout à fait transparent. On a un double enjeu à gérer. Le premier enjeu, c'est effectivement d'aider nos utilisateurs. On voit bien que l'IA peut permettre de lire plus vite un document, de vérifier plus vite qu'un SERFA est bien rempli.
C'est clair.
Et donc, oui, il y a des gains possibles. Pour autant, nous sommes une plateforme quand même qui est connectée à l'État, nous sommes une plateforme d'État. Les questions de souveraineté sont importantes. Les questions de qualité des données sont importantes, c'est-à-dire qu'il nous faut donc trouver le juste équilibre. Et donc, pour répondre concrètement à la question, et elle est effectivement très bonne, nous avons une petite partie du projet qui s'occupe de l'innovation et nous commençons en chambre à tester l'IA avec un double objectif. L'idée, c'est pour l'instant de travailler sur deux types de projets, des projets qui rendent service à nos utilisateurs et des projets qui nous rendent service pour développer le SIAP plus rapidement, l'ajuster plus rapidement. Okay, donc on pense beaucoup aux instructeurs, on pense beaucoup aux instructeurs. Mais encore une fois, et je voudrais rassurer, on est très soucieux de la sécurité, très soucieux de la souveraineté et très soucieux de l'humain. L'IA dans le SIAP ne remplacera jamais les opérateurs.
Et c'est rassurant. Et puis c'est vrai que quand on a la collecte de données, c'est toujours important aussi, c'est question de savoir ce qu'on en fait très concrètement. Mais vous n'êtes pas fermé, il y a donc un département R&D quoi, quelque part.
Ça s'appelle le studio INO, Innovation. Ouais. Et donc on travaille dur sur ça et donc on espère sortir quelque chose dès l'année prochaine, ça serait bien.
Test and learn, et vous reviendrez nous en parler.
À volontiers.
Une dernière question, Hélène.
Oui, alors c'est peut-être toujours dans la même continuité, justement sur l'importance du facteur humain dans ce système d'information. Comment vous avez pensé l'outil peut-être pour des publics moins connectés et un peu plus éloignés du numérique ?
Alors, je vais répondre à la question. Alors, comme l'a dit Stéphane, il y a déjà un premier axe, c'est la formation. C'est vraiment de dire que il y a tout un dispositif, en tout cas, qui est aujourd'hui mis à disposition des utilisateurs pour se former à l'utilisation de la plateforme. Mais malgré tout, au-delà de la formation, dans la manière dont est pensée la plateforme, elle est faite pour être simple. Voilà. Je pense que c'est le maître mot, en tout cas aujourd'hui. C'est une plateforme qui a vocation à être simple, à être, j'ai envie de dire, utilisée et donc utilisable, puisque sinon, l'un dans l'autre, ça ne fonctionne pas. On a également donc l'assistance aussi, donc qui a déjà été évoquée, mais de manière plus globale aussi, on a tout un axe de réflexion autour également de l'accessibilité numérique, parce qu'on a aussi parfois des personnes en situation de handicap qui peuvent être amenées à utiliser la plateforme. Et donc, on tient vraiment, et c'est aussi ce qu'on dit à nos équipes techniques, numérique, voilà, que ces enjeux d'accessibilité numérique, qui sont très fortes aussi pour tous les applicatifs des services de l'État, soient intégrés au sein de la plateforme. Et on a d'ailleurs de très bons résultats sur ces aspects-là.
Tant mieux.
Et si un des auditeurs considère qu'il n'a pas été suffisamment
informé
ou formé, qu'il n'hésite pas à se manifester, même à titre personnel, nous sommes des humains, et donc il suffit de nous laisser un message via l'assistance, d'écrire à nos mails qui sont publics, et on en tiendra compte, parce qu'on n'est peut-être pas absolument parfait. Mais en tout cas, notre objectif, c'est d'être toujours dans cette logique d'utilisateurs et de les accompagner soit individuellement, soit structurellement, parce que la question pourrait se poser aussi pour des structures qui se posent la question de comment on bascule, une logique de managériale, et donc là aussi on est à l'écoute et prêt à faire du sur-mesure pour accompagner la transition.
Eh ben c'est parfait. On a fait le tour des questions, Hélène ?
Oui.
Eh ben c'est génial. Un grand merci à toutes et tous d'avoir répondu présent pour cet épisode. Merci Stéphane, Christine, Loris et Chloé pour vos retours d'expérience, évidemment. Merci également à vous de nous avoir suivis. Cette émission, eh bien, elle est disponible évidemment sur Radio Territoria. On va se retrouver très vite, Hélène ?
Une petite pause estivale.
Pas quand même,
on
oui,
se
quand
retrouve
même.
En septembre.
Vous partez en vacances, vous ?
Un petit peu. Oui. Ah bah. Et on va se retrouver à Bordeaux au salon du logement social.
Et
du
bien sûr.
22 au 24 septembre.
Et on y sera avec beaucoup de plaisir. Merci encore à toutes et tous. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Salut.
Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.